France Info.
En ce vendredi 27 donc février. Merci Christine Peignan, on vous retrouve dans 10 minutes pour une nouvelle météo complète. France Info, il est 5h. Et à la une des prélèvements ADN dans le hameau du Auvernais, dans l'enquête sur la disparition et la mort du petit Émile, c'était en 2023, une centaine de personnes sont concernées par ces prélèvements. Dans ce journal aussi, des changements au gouvernement. Catherine Pégard arrive à la culture après le départ de Rachida Dati. Des fuites de données sensibles, données médicales, elles sont accessibles sur le dark web. Et puis la Suède met en cause la Russie dans le drone détecté à proximité du Charles de Gaulle hier. L'enquête est en cours. Mais d'abord le sacre de l'attachement de Karine Tardieu hier soir à la 51e cérémonie des Césars, récompense du meilleur film. Laurent Lafitte lui décroche son premier César de meilleur acteur pour son rôle dans La femme la plus riche du monde. Pour Léa Drucker, c'est la deuxième fois elle de sa carrière qu'elle remporte le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Dossier 137. Elle y incarne une policière de l'IGPN qui enquête après des violences policières commises sur des gilets jaunes.
Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et mon admiration à Dominique Moll pour le metteur en scène qu'il est et puis pour la bonté et l'humanité qu'il diffuse à chaque instant du tournage. Et je voudrais remercier vivement les deux enquêtrices de l'IGPN grâce à qui j'ai pu m'approcher au plus près de la vérité de cette fonction qui est une fonction très délicate et inconfortable qui suscite la méfiance de toutes parts. Et en tournant ce film, j'ai pu comprendre de façon plus intime ce qui se joue dans cette zone de tension entre l'institution policière et les citoyens.
Voilà Léa Drucker qui a donc reçu le César de la meilleure actrice 2026 hier soir. Vous l'entendiez, elle était sur Canal+. Dans l'affaire des laits infantiles contaminés, un premier lien établi entre l'un de ces laits visé par un rappel et la présence de toxines céréulides dans les selles d'un nourrisson hospitalisé à Montpellier. C'est une information de la cellule investigation de Radio France. Une concentration de céréulides qui s'est avérée supérieure au seuil de danger. Une opération d'ampleur en ce moment au Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence, 3 ans après la mort du petit Émile. Les juges d'instruction demandent aux enquêteurs de retourner dans ce village où l'enfant a disparu pour prélever, Aurélien Tirard, l'ADN d'une centaine de personnes.
Cette campagne de prélèvement, elle a déjà commencé il y a quelques jours et elle concerne des personnes qui étaient au village du Vernet le jour de la disparition d'Émile. Les gendarmes vont prendre le temps de mener cette opération très lourde, elle va durer plusieurs semaines. Cette campagne, certains bons connaisseurs du dossier la trouvent tardive, près de 3 ans après la disparition du petit garçon. Alors, les enquêteurs ont-ils un ADN suspect en leur possession qu'ils espèrent faire matcher avec l'une des personnes visées ? Il s'agit en tout cas de chercher au-delà du cercle familial d'Émile. Ces membres qui ont déjà été prélevés au début de l'enquête. Julien Pinelli, l'avocat de la grand-mère de l'enfant.
Nous en sommes naturellement satisfaits puisque cela va dans le droit fil des demandes d'investigation complémentaires. Il est encourageant d'observer que nos regards finalement sont utilement convergents avec ceux que le juge d'instruction et les enquêteurs portent sur la conduite de cette procédure.
Cet avocat souhaite également que des lieux autour du hameau du Auvernais soient fouillés, que des témoins soient entendus à nouveau et que l'expertise sur la téléphonie soit approfondie. Pour l'heure, l'enquête reste toujours ouverte pour homicide volontaire. Les grands-parents d'Émile avaient été placés en garde à vue avant d'être remis en liberté, sans charge retenue à leur encontre.
Aurélien Tirard pour France Info. Un remaniement ou plutôt un ajustement au gouvernement. Catherine Pégard, l'ancienne présidente du château de Versailles, remplace Rachida Dati au ministère de la Culture. Catherine Pégard, ancienne journaliste, était jusqu'ici conseillère d'Emmanuel Macron, après avoir été celle de Nicolas Sarkozy. Et Aurélie Herbemont, ce n'est pas le seul nouveau visage de ce gouvernement.
Sébastien Lecornu a 4 nouveaux ministres, dont Catherine Pégard à la culture. Il y a aussi un retour, celui de Sabrina Roubache, proche du couple Macron, ex-secrétaire d'État. Avant sa défaite aux législatives à Marseille en 2024, elle revient comme ministre de la formation professionnelle. Un député LR des Hauts-de-Seine fait également son entrée, Jean-Didier Berger. Il travaillera avec le ministre de l'Intérieur. La députée macroniste de l'Isère, Camille Galliard-Minier, devient quant à elle ministre de l'Autonomie. Matignon parle de simple ajustement, un ajustement qui n'est pas fini. Un ministre de la fonction publique sera nommé avant la fin des municipales pour finaliser le jeu de chaises musicales. L'ex-titulaire du poste, David Amiel, ayant pris la place d'Amélie de Montchalin au budget, dimanche dernier.
Une précision signée Aurélie Herbemont, service politique de France Info. Deux semaines après la mort de Quentin Derenc, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Lyon hier soir, un rendez-vous prévu de longue date. Le leader de la France Insoumise qui renouvelle son soutien au mouvement antifasciste de la Jeune Garde, ce n'est pas une organisation criminelle, insiste Jean-Luc Mélenchon qui a de nouveau pris la presse pour cible. Nous ne renoncerons pas, dit-il, à trier les médias. France Info, il est 5h05, un piratage massif, il concerne les dossiers médicaux de 11 à 15 millions de Français. Ce sont nos confrères de France 2 qui le révèlent. Des données en partie disponibles sur le dark web, des informations intimes y figurent. Alors Timon Rosturk, comment se fait-il que des données de ce type puissent se retrouver dans une fuite sur le web ?
Au fil des consultations, votre médecin note vos antécédents médicaux, mais aussi parfois des informations sensibles que vous lui confiez, explique Vincent Trelli, spécialiste en cybersécurité dans le domaine de la santé.
Il a toute notre histoire. Il a nos traitements, il a nos vaccins, et en plus, il a des cases dans les logiciels pour noter des trucs pour lui. C'est là où il y a plein de données, peut-être en dépression, père mort, il y a 200. Donc, en plus des données médicales, il y a quand même des données très intimes.
Et ces données ne sont souvent plus stockées au cabinet médical dans le disque dur de l'ordinateur, mais sur des serveurs en ligne dans ce qu'on appelle le cloud.
Donc, il a une application dans le cloud avec des technologies normalement de sécurité pour protéger tout ça. Si à un moment donné, le piratage a lieu sur le data center du cloud, on se retrouve avec une montagne de personnes concernées et ce serait, oui, l'une des plus grosses fuites de données du système de santé. Oui.
Les pirates ont l'habitude de divulguer une partie des fichiers volés pour faire pression, obtenir une rançon en montrant qu'ils disposent bien des données.
Ils le prouvent par la mise à disposition, comme ça, open bar, d'un échantillon.
Une pratique de plus en plus courante, alors que selon Vincent Trelli, plus un jour ne passe sans une fuite de données majeure.
Et des personnalités politiques de premier plan sont également présentes dans cette base de données, à l'image de potentiels candidats à l'élection présidentielle, de hauts fonctionnaires ainsi que des responsables de la sécurité nationale. Bill Clinton ne savait rien des crimes de Jeffrey Epstein, c'est ce qu'assure sa femme Hillary Clinton, auditionnée par une commission d'enquête parlementaire. L'ex-chef de la diplomatie américaine réclame à présent que Donald Trump soit lui aussi entendu sur ses liens avec le criminel sexuel. Bill Clinton, lui, doit être auditionné aujourd'hui. Un drone détecté hier à proximité du port suédois de Malmö, c'est là où stationne actuellement le porte-avions français de Charles de Gaulle. L'appareil, ce drone, a été brouillé par un dispositif suédois, le gouvernement suédois, qui pointe du doigt la Russie, Ottilia Ferret.
Et oui, selon le ministre suédois de la Défense, c'est bien un drone russe qui a décollé d'un navire à proximité immédiate et qui s'est aventuré un petit peu trop près du Charles de Gaulle, à une dizaine de kilomètres à peine.
Il est probable qu'il y ait une violation de l'espace aérien suédois par un drone. Cela s'est produit alors qu'un navire militaire russe se trouvait dans le récent, également dans les eaux territoriales suédoises. Les forces armées ont réagi rapidement, de manière résolue, et ont aussi travaillé à neutraliser ce drone par brouillage.
Le journaliste de la télévision suédoise lui demande l'origine de ce drone, à qui il appartient.
Probablement à la Russie, compte tenu du fait qu'un navire militaire russe se trouvait à proximité immédiate de la zone concernée. Les forces armées mènent une enquête technique afin de vérifier les éléments dont elles disposent, mais tout porte à croire qu'il existe un lien fort entre le navire militaire russe et ce drone.
Le ministre de la Défense explique aussi que le navire suspect a poursuivi sa route vers la mer Baltique et il précise que les autorités danoises ont été contactées au sujet de cet incident. Côté français, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, se rendra vendredi à bord du porte-avions Charles de Gaulle où il accueillera le gouvernement suédois.
Ottilia Ferret, correspondante en Suède pour France Info. Le Pakistan a frappé cette nuit Kaboul et Kandahar en Afghanistan. L'Afghanistan qui a répliqué. Islamabad déclare la guerre ouverte aux autorités talibanes afghanes. Succession de frappes meurtrières entre les deux pays dont les relations n'ont fait que se dégrader ces derniers mois. En Ligue Europa de foot, Lille rejoint Lyon en huitième de finale. Les nordistes vainqueurs à Belgrade 2-0 après prolongation. En huitième de finale, les Lillois affronteront Lyon ou Aston Villa. Tirage au sort à la mi-journée. À suivre également le tirage au sort des huitièmes de finale, cette fois de la Ligue des Champions. Il est 5h09. On jette encore un œil sur sur le temps avec vous, Christine Peña, avec encore beaucoup de soleil et de douceur sur le nord-est.
Bah oui, du sud-ouest d'ailleurs à l'Auvergne, le nord-est, nous avons beaucoup de soleil et peut-être des records de douceur de nouveau pour le nord-est, effectivement, avec 21 en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté également, 23 à Clermont-Ferrand. Ce week-end, la baisse sera générale puisque ça baisse dans le nord-ouest. Pour aujourd'hui, Bretagne, Paris, 16 degrés, 12 pour Rouen, mais nous avons pas mal de nuages et de petites pluies qui restent faibles là qui nous arrivent.
Merci Christine Peña, on vous retrouve dans 20 minutes.
Bonjour.
Bonjour,
c'est Sting et
Shaggy
sur France en feu.
Jusqu'à vendredi, Sting et Shaggy sont les invités du Monde d'Élodie. Ils nous racontent la genèse du spectacle musical The Last Ship, inspiré de l'enfance de Sting.
Lorsque j'étais enfant, je me suis dit peut-être qu'un jour tu travailleras dans un chantier naval. Et je ne le souhaitais pas, je voulais faire de la musique.
Sting et Shaggy, dans le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 10h50, 15h50 et 21h50 sur France Info.
À retrouver sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr.
À suivre sur France Info quand les femmes dirigeantes se regroupent entre elles pour faire du réseau. Dans quelques minutes aussi, on sera dans le sud-ouest où les tempêtes laissent de gros dégâts sur nos côtes. Mais d'abord, récompense, acteurs et actrices, on revient sur les Césars remis hier soir.
France Info, 5h-6h, Diane Ferschit.
Tapis rouge et récompense hier soir à l'Olympia à Paris pour la 51e cérémonie des Césars. C'est l'attachement de Karine Tardieu qui repart avec le César du meilleur film dans une soirée, comme attendu, assez ouverte où une demi-douzaine de films ont été récompensés plusieurs fois. Retour sur les temps forts de cette soirée avec vous, Matteo Maestracci.
Le César du meilleur film est attribué à l'attachement.
Et ce sacre pour l'attachement, c'est aussi celui d'un cinéma français d'auteur, original et exigeant, qui a su trouver son public dans une année 2025 qui a pourtant vu la fréquentation en salle baisser de 14%. Près de 780 000 spectateurs sont allés voir le film de Karine Tardieu qui les a remerciés sur scène hier soir.
Tous ces spectateurs, et pas que les miens, qui se sont déplacés et se déplacent encore chaque jour pour rencontrer non seulement une œuvre, mais une part d'eux-mêmes, une part des autres.
En l'absence de grands favoris, la soirée était ouverte et les Césars ont été distribués assez équitablement. 4 récompenses pour Nouvelle Vague, film le plus nommé, dont celle de la réalisation pour Richard Linklater. 3 pour l'attachement, 2 Césars pour plusieurs films, Arco, Nino, L'inconnu de la Grande Arche et le documentaire Le Chant des Forêts. 2e César de meilleure actrice pour Léa Drucker pour Dossier 137. Laurent Lafitte, lui, devient meilleur acteur pour la première fois grâce à sa prestation pour La femme la plus riche du monde.
J'aimerais dédier ce César à la France. Parce que quand j'étais jeune comédien, j'ai pu avoir une formation gratuite qui s'appelle le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui offrent ça aux jeunes acteurs.
Meilleur second rôle, Vima Laponce et Pierre Lottin. Révélation, Nadia Melitti et Théodore Pellerin. Dans les autres temps forts de la soirée, le discours poignant sur l'Iran de la comédienne Goldshifteh Farahani. Le premier César, enfin, pour Franck Dubosc. Meilleur scénario original pour sa comédie Un ours dans le Jura. Et bien sûr, le César d'honneur pour le comédien canado-américain Jim Carrey, très ému et qui a parlé français pour l'occasion.
Merci beaucoup, c'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage que vous incarnez, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre cœur. Quelle chance j'ai eu de partager cet art avec tant de personnes.
Jim Carrey, dont le doubleur français Emmanuel Curtil a interpellé la nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard, présente dans la salle quelques heures après sa nomination sur les menaces de l'intelligence artificielle.
Les détails de cette 51e cérémonie des Césars hier soir, signée Matteo Maestracci. France Info, il est 5h14 et elles ont tour à tour touché la France cet hiver. Les tempêtes Pedro, Nils ou encore Leonardo, des événements climatiques qui ont entraîné des crues mais qui creusent, qui érodent aussi nos littoraux. Conséquence, les côtes reculent sous l'assaut des vagues et c'est tout un paysage qui change avec de nombreux dégâts, comme l'a constaté Guillaume Fariol dans les Landes et en Gironde.
De lourdes barrières de métal bloquent tous les accès à la plage de Biscarrosse. Des panneaux rouges préviennent. Accès interdit, risque d'effondrement, érosion du nerf. Il y a un mois, la promenade en front de mer s'est effondrée sous les assauts des vagues. Jean-Claude et Marinette habitent ici depuis 45 ans. Le couple voit l'océan progresser chaque année.
Et l'accès à l'océan était beaucoup plus loin.
Ah oui, on marchait beaucoup plus que ça.
Là où la vague se casse, bon, mais c'était le bord de la plage.
Et aujourd'hui, c'est à...
Oh, c'est à 100 ou 150 mètres.
Ah, moi, je suis triste. En très peu de temps, on a vu le littoral changer. Cette promenade qui était hyper agréable.
Tout est parti à l'eau suite à cette tempête.
Et puis, c'est tout un passé qui part à l'eau.
Chaque hiver, plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de sable sont acheminés ici pour recharger la plage et limiter l'érosion. Tout le long de la côte, c'est le même combat. L'emblématique dune du Pila est protégée par une nouvelle digue. Plus au nord, Lacanau a construit un rempart de béton face aux vagues. Et nous voilà maintenant au village ostréicole de l'Herbe sur le Cap Ferré. Une centaine de cabanes en bois menacées elles aussi par l'érosion et la montée des eaux. Louis, ostréiculteur, est en train de trier ses huîtres.
Ah oui, là, l'érosion, oui, là, surtout cet hiver, on voit que vraiment... À l'océan, ça a bien mangé le sable.
Il le sait, il va falloir s'adapter.
Ça nous inquiète, enfin, on réfléchit un peu à ça, oui, à quelles solutions on pourrait apporter. La mairie a mis en place des bâtards d'eau qui permettent de limiter ça. La réfection des perrets qui souffrent de plus en plus avec les vagues.
Les perrets, c'est ?
C'est ce qui protège devant les maisons en première ligne contre l'érosion et les vagues. Donc oui, il faut penser à réfléchir oui, à l'avenir avec le peu de moyens qu'on a. Donc oui, c'est un peu compliqué.
Parmi les pistes à l'étude, surélever chaque cabane avec des vérins hydrauliques et des pilotis. Mais les solutions sont parfois plus simples. Sur la plage de l'Horizon, tout près de là, la dune qui protège les maisons de l'océan a reculé de 20 mètres cet hiver. Nous y retrouvons Benoît Destribats, chargé de suivre l'érosion à l'Office national des forêts.
Le blocos qu'on a devant les yeux, qui était il y a encore quelques semaines sur le sommet de la dune. Il a glissé lentement et il se retrouve maintenant quasiment au milieu de la plage.
Alors pour freiner le phénomène, l'ONF ici mise sur la nature et sur une plante locale qui stabilise les dunes.
Plante typique de la côte atlantique, c'est l'Oya que vous avez devant les yeux. Cette grosse touffe qui pourrait ressembler un petit peu à du riz de loin, elle résiste aux intempéries. Et elle a un système racinaire qui permet de fixer le cordon, ou en tout cas de le stabiliser. À la moitié du printemps, on va pouvoir mettre en place des travaux, tout simplement en faisant des couvertures de branchage, qui va nous servir à couvrir la dune, et dans un deuxième temps, si ce n'est pas régénéré naturellement, accompagner le processus en plantant l'Oya.
De quoi ralentir, mais pas arrêter l'océan.
L'érosion, on ne peut pas l'arrêter. On aura beau créer un mur, on n'y arrivera pas.
Le long de cette côte de l'Aquitaine, 6000 bâtiments sont menacés par l'érosion, d'ici 2050.
France Info, reportage signé Guillaume Fariol. On met souvent en avant l'importance du réseau dans le monde du travail et s'il permettait de féminiser davantage aussi les instances dirigeantes des entreprises. À partir de dimanche, les entreprises de plus de 1000 salariés devront atteindre un seuil de 30% de femmes dans leurs comités exécutifs ou comités de direction. Alors pour faire sauter le plafond de verre, certaines femmes se regroupent. Comme à Paris, elles sont une cinquantaine à faire partie du Women's Executive Network. Laurine Benjebria a pu assister pour France Info à un de leurs apéros after work.
À l'étage de ce bar parisien, elles sont une dizaine de femmes réunies pour un apéro un peu particulier.
Je suis directrice marketing en B2C.
Je suis directrice marketing et communication dans une jolie maison de luxe.
J'étais au comité de direction d'une business unit.
Toutes font partie du comité exécutif ou de direction de leur entreprise, instance où les femmes sont encore rares, confie Cécile, DRH.
Je suis à ça sur 8 personnes, mais c'est assez traditionnel. On a maximum une ou deux femmes dans des comités de direction.
Pour féminiser ces comités, ces dirigeantes s'ouvrent leur carnet d'adresses car, comme le constate Sidonie, à la recherche d'un poste de directrice marketing, à ce niveau, ce n'est pas le CV qui fait la différence.
Sur des postes de direction, on dit que les postes se trouvent plutôt via le réseau. Quand j'ai changé d'entreprise, quand j'ai réfléchi, à chaque fois, ça s'est fait par le réseau.
À compter du 1er mars, les entreprises de plus de 1000 salariés devront avoir 30% de femmes dans leurs organes de gouvernance, puis 40% dans 3 ans. Pour Catherine de Blecker, cofondatrice du réseau, les progrès sont encore lents.
On voit bien que la majorité de ces sociétés ne sont absolument pas prêtes. Donc ce qu'on anticipe, c'est qu'ils vont un peu le faire à grande vitesse. Donc ils ont deux choix. Ou on licencie un homme pour remplacer par une femme, ou on agrandit notre comité de direction.
Avec le risque, selon elle, que les femmes restent cantonnées à certains postes.
Souvent, c'est des femmes qui sont dans une position RH, RSE, directrice de la communication. Et donc, quand on dit on est sur, un sujet très commercial ou quoi que ce soit, elles vont donner leur opinion et on va dire tu peux pas comprendre, t'es pas dans ton job.
Car même en ayant accès à ces postes, Julia l'assure, se faire une place reste difficile.
On est là dans les discussions, mais il faut quand même faire sa place. C'est-à-dire que dans un groupe où il va y avoir 6 hommes ou 7 hommes et que vous allez être la seule femme, vous allez expliquer et à un moment ou un autre, on va vous rappeler par un regard, par une réflexion que vous êtes une femme.
Certaines parlent donc plus fort pour s'imposer en réunion, d'autres relancent une consoeur quand elle se fait couper la parole, des conseils que les femmes du réseau se livrent régulièrement lors d'ateliers ou de conférences.
Le reportage signé Laurine Benjebria pour France Info. Dans une minute, on s'intéressera à cette expérimentation dans 6 départements, un formulaire simplifié pour les adultes handicapés.
France Info, 5h-6h.
5h20 sur France Info, l'info en une minute. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
Et elle a eu un nouveau rebondissement dans le scandale du lait infantile contaminé.
Un premier lien a été confirmé entre la consommation de lait en poudre et la présence de la toxine céréulide dans les selles d'un enfant hospitalisé à Montpellier. 4 enquêtes pénales sont en cours après la mort de nourrissons. Une immense fuite de données, les dossiers médicaux de 11 à 15 millions de Français piratés avec des informations sensibles désormais sur le dark web et en accès libre. On y trouve les données de patients atteints du sida, victimes d'inceste ou de viol, selon l'enquête de France 2. 4 nouveaux ministres au gouvernement, parmi eux Catherine Pégard, proche d'Emmanuel Macron, nommée à la culture. L'ancienne présidente du château de Versailles remplace Rachida Dati. Camille Galliard-Minier, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. La tout juste ministre de la culture présente hier soir à la cérémonie des Césars. L'attachement remporte le trophée du meilleur film, Léa Drucker, celui de la meilleure actrice pour son rôle dans Dossier 137.
France Info. Plus de simplification administrative pour les personnes handicapées. À partir de dimanche, le nouveau formulaire permettant notamment d'obtenir l'allocation adulte handicapé sera disponible. Expérimentation dans 6 départements. Pendant des semaines, des experts du monde du handicap ainsi que des usagers ont travaillé à le rendre plus clair et plus lisible. Le nouveau formulaire que vous avez pu consulter, Solène Lehen.
L'actuel formulaire de 20 pages, ce sont des dizaines de cadres de toutes les couleurs à remplir, des centaines de cases à cocher, le tout dans des polices de tailles différentes, en gras, en maigre, de quoi se sentir submergé quand on n'est pas féru d'administratif. Charlotte Parmentier-Lecoq, ancienne ministre du Handicap.
Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas des personnes en situation de handicap qui m'interpellent sur la lourdeur des procédures et la complexité du dossier MDPH.
Pourtant, ce formulaire à adresser aux MDPH, les maisons des personnes handicapées, est nécessaire pour obtenir l'allocation adulte handicapé, le statut de travailleur handicapé ou encore la carte qui permet d'éviter les files d'attente ou de se garer sur les places handicapées. Le nouveau formulaire, expérimenté à partir de dimanche dans l'Aveyron, le Nord, les Deux-Corses, l'Indre et la Guyane, est lui plus court, 14 pages, plus concis, plus simple aussi.
Par exemple, les familles nous ont, et les usagers nous ont fait beaucoup remonter que demander de décrire leur projet de vie ou le projet de vie d'un enfant était quand même à la fois très complexe et parfois un peu malmenant, puisque c'est difficile de se projeter pour un enfant parfois lourdement handicapé.
Un formulaire également moins jargonneux. Ainsi, le chapitre « Les attentes pour compenser la situation de handicap » devient « Les besoins pour la vie quotidienne ». Pour les maisons des personnes handicapées qui sont débordées, le but est aussi de pouvoir traiter les dossiers plus vite et répondre plus vite aux personnes en situation de handicap. La lettre de réponse sera là aussi plus humaine, promet l'ancienne ministre du Handicap.
On avait parfois des formulations assez dures, du type « Votre dossier est rejeté ».
Alors, qu'en pensent les usagers? Eh bien, il y a un sérieux risque, juge Arnaud de Broca, président du collectif Handicap, qui regroupe une cinquantaine d'associations, risque d'avoir créé un formulaire trop simplifié.
À trop vouloir simplifier, en réduisant les informations demandées, on va
nous, c'est notre analyse, réduire les droits des personnes. Alors, ce n'est peut-être pas l'objectif du gouvernement, mais c'est la conséquence très réelle que vont engendrer ces formulaires. Parce que les personnes vont donner moins d'informations qu'avant, et que donc les maisons départementales des personnes handicapées vont pas pouvoir inventer les informations dont elles ne disposent pas.
Le collectif demande le report de cette expérimentation, une expérimentation censée durer jusqu'à l'automne avant peut-être une généralisation de ces formulaires partout en France.
La France Info, reportage signé Solène Lehen. Dernier jour avec des invités exceptionnels cette semaine dans le monde d'Elodie, Sting et le chanteur Shaggy pour leur spectacle musical The La Chip. Il est en ce moment à la scène musicale.
Bonjour Sting.
Bonjour.
Bonjour Shaggy.
Bonjour.
Life is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done?
C'est notre dernier jour ensemble dans cette semaine qui vous est totalement consacrée. On a posé deux sièges pour vous accueillir ensemble avec des micros et vous avez accepté d'ailleurs d'interpréter certains titres en acoustique et en live. On comprend que vous êtes aujourd'hui à votre place l'un et l'autre.
Well, I would like to think that I am as you said exactly where.
J'adore cette idée d'être exactement là où j'ai envie d'être et c'est un très beau message. Et ma vie, ma carrière, cette aventure a été une très belle aventure. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est tout simplement de continuer à inspirer les autres, à m'inspirer moi-même aussi et à surprendre. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, mais je suis enthousiaste.
Sting, je voudrais qu'on parle de Roxane. Est-ce que c'est le titre le plus important pour vous, celui qui fait la bascule?
Certainly, your first hit is a combination of good fortune, of luck.
Le premier succès qui vous arrive, c'est évidemment avoir la bonne chanson au bon moment. D'abord, sachez que j'ai composé Roxane à Paris. J'aimais bien Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand et son amour s'appelait Roxane, qui est un nom magnifique, un nom d'élégance, d'amour. Et j'ai donc donner ce nom à Belle de Nuit, et cette combinaison Belle de Nuit Roxane est très forte. Je continue à chanter ce titre tous les soirs, et tous les soirs il y a quelque chose de différent lorsque je chante Roxane, et je suis toujours heureux de chanter Roxane, et chaque fois j'y découvre quelque chose de nouveau.
Roxane, you don't have to turn on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light.
Quand on écoute ce spectacle, toutes les chansons, c'est qu'on se rend compte à quel point l'histoire, elle raconte une autre époque, mais sauf qu'elle est vraiment d'actualité encore aujourd'hui. On parle de démantèlement de chantiers navals, de gens qui se sont battus. Là, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle qui peut-être va mettre à l'amende un certain nombre de métiers. Ça vous fait peur, ça?
It does scare me.
Oui, ça me fait peur. Mais en même temps, je pense que l'IA n'a pas d'émotion. L'IA ne peut pas ressentir la tristesse. Donc, je pense que quelque part, les capacités de l'IA sont limitées. Mais ça n'en reste pas moins un défi.
Shaggy,
on entend pas mal de chansons aujourd'hui qui sont créées ou inspirées par l'IA. Le défi pour nous, c'est de faire mieux que l'IA. Ceux qui vont survivre sont ceux qui vont vraiment maîtriser leur art, les vrais musiciens, les véritables artistes. L'IA n'est pas dotée d'une âme. L'IA ne peut pas créer de la musique que l'on ressent. Oui, de la musique que l'on entend, mais pas celle que l'on ressent. La musique qui vous donne la chair de poule, ça, c'est ce qu'est la musique que les humains savent créer. Mais ça demande de véritables compétences, un véritable savoir-faire, et ce sont ces humains-là qui pourront battre l'IA.
Fier de ce spectacle, The Last Ship, Sting?
Absolument, je suis très fier, je suis fier des personnes avec moi sur scène, du plaisir, de la musique et de tout ce qui ressort de ce spectacle. Et je crois que voilà, c'est ça, c'est un groupe formidable d'artistes, on a un casting extraordinaire, L'ensemble des personnes qui gravitent autour de ce projet sont formidables et je suis heureux d'y retourner tous les jours.
Merci à tous les deux d'être passés dans le monde d'Élodie sur France Info. The Last Ship, il faut y aller. C'est à la scène musicale de Boulogne-Billancourt jusqu'au 7 mars. Après, vous allez vous envoler pour une tournée mondiale. Vous allez suivre d'ailleurs, Shaggy, la tournée mondiale ?
I'm wherever they say to go.
Ah bah moi, il me dit d'y aller, j'y vais, hein, évidemment.
A priori, il vient de faire signe que c'est OK pour tout le monde. Si vous voulez prolonger cet échange et ce moment suspendu, vous pouvez découvrir le podcast de cette émission et garder les bons moments aussi en vidéo d'ailleurs. Il faut vous regarder parce que vous avez tellement le sourire, ça fait tellement du bien. Et je rappelle aussi qu'il y a The Last Ship, l'album, le Expanded Edition avec des versions qui sont disponibles, soit 24 titres en digital, CD et vinyle. Merci beaucoup.
Much love.
Merci.
Sting et Shaggy dans le monde d'Élodie à retrouver sur franceinfo.fr. La météo, Christine Peña, et des températures en baisse.
Mais oui, alors sous les nuages et la pluie qui arrivent par le nord-ouest, hein, le quart nord-ouest est concerné, les températures sont en baisse. Alors pas ce matin, mais surtout cet après-midi. Et elles restent d'un bon niveau, toujours au-dessus des normales de saison. Avec 12 à Rouen, il devrait faire entre 9 et 10 degrés. Donc on est légèrement au-dessus, c'est vrai. On aura encore 16 à Paris, donc ça baisse. 13 du côté de Lille, d'Alençon. Alors que sous le soleil qui restera présent, hein, très présent du sud-ouest au nord, il fera encore très chaud, avec peut-être de nouveaux records pour les régions du Nord-Est. Je pense à l'Alsace notamment, avec 21 degrés cet après-midi. Il fera même 23 du côté de Clermont-Ferrand.
Christine Peña, France Info, il est 5h30.
France Info. Diane Ferchit.
Attention à la composition des jouets à base de sable. La mise en garde de la répression des fraudes, elle appelle à suspendre la vente de ces jeux après avoir été avertie de la présence d'amiante dans certains d'entre eux. Plusieurs lots ont déjà fait l'objet de rappels, Arthur Fradin.
Dans le viseur de la répression des fraudes, des jouets créatifs, cartes et magnets création en sable vendus par l'enseigne Emma, mais aussi des figurines commercialisées par Action ou encore Jiffy, tout en raison donc de traces d'amiante présentes dans le rembourrage dans le cas des figurines. L'ensemble des professionnels sont maintenant invités à retirer les jouets à base de sable de la vente, le temps de s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'amiante. Pour les parents, deux recommandations de la part des autorités: ne pas acheter de jouets contenant du sable et, s'ils en possèdent déjà, les tenir hors de portée des enfants. Point rassurant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire indique qu'à ce stade, il n'y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d'amiante. La texture humide du sable contenu dans les jouets limite d'ailleurs le risque de dispersion et les possibilités d'inhalation. La mesure vise simplement à écarter toute exposition potentielle.
Précision signée Arthur Fradin pour France Info. Un premier lien établi en France entre la consommation d'un lait infantile qui faisait l'objet d'un rappel et la présence de céréulide dans les selles d'un bébé d'un peu moins d'un mois. Il est hospitalisé. La céréulide est une toxine. Chez cet enfant, les concentrations mesurées sont supérieures au seuil de danger. C'est une information de la cellule investigation de Radio France, alors que 4 enquêtes pénales sont en cours après les morts suspectes de nourrissons. 4 nouveaux ministres au gouvernement, notamment 4 Catherine Pégard au ministère de la Culture. L'ancienne dirigeante du château de Versailles vient remplacer Rachida Dati qui se consacre à la campagne des municipales à Paris. Je n'ai jamais rencontré Jeffrey Epstein. Voilà ce qu'Hillary Clinton a répondu hier devant une commission parlementaire tenue à huis clos dans l'État de New York. Son mari, Bill Clinton, doit être auditionné à son tour aujourd'hui et l'enregistrement de cette audition doit être publié dans les prochaines heures. L'ancienne première dame et certains participants ont déjà livré quelques détails. Hillary Clinton qui s'est montrée, Franck Madvon, offensive.
Après son audition, Hillary Clinton s'est présentée devant la presse la tête haute, la voix claire. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire que je ne connaissais pas Jeffrey Epstein, que je ne suis jamais allé sur son île, dans ses résidences, dans ses bureaux. C'est enregistré, je l'ai dit à plusieurs reprises. Hillary Clinton a publié sa déclaration prononcée en début d'audition. Elle parle d'un théâtre politique et estime n'avoir rien à faire là. Elle affirme que pour obtenir la vérité, il faudrait entendre Donald Trump citer des milliers de fois dans les dossiers Epstein. Le président républicain de la commission a précisé que personne n'accusait les Clinton de malversation, mais que les parlementaires avaient des questions à leur poser. Contrairement à Hillary, son mari Bill est souvent mentionné dans les dossiers Epstein. Il apparaît sur des photos, d'où cette question à Hillary Clinton. Êtes-vous certaine que l'ancien président n'a rien su des agissements d'Epstein ?
I am, and I think
Je le suis, répond-elle. Puis elle explique que la chronologie des faits le montre. Bill Clinton aurait coupé tout lien avec le financier des années avant que ses actes criminels ne soient révélés. C'est ce qu'il devrait dire aujourd'hui aux parlementaires.
Franck Madvon, la 51e cérémonie des Césars hier soir à Paris. Le César du meilleur film est allé à L'Attachement, signé Karine Tardieu. C'est Laurent Lafitte qui a remporté le prix de meilleur acteur pour son rôle dans La femme la plus riche du monde. C'est son tout premier César. Léa Drucker, elle est sacrée pour la deuxième fois de sa carrière meilleure actrice. Merci d'être avec nous sur France Info. Il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Diane Ferchit.
Et cela fait 15 jours déjà que l'astronaute française Sophie Adenau a pris ses quartiers dans la Station Spatiale Internationale à plus de 400 km au-dessus de nos têtes. Et elle a accordé hier sa toute première interview depuis l'ISS. Sophie Adenau, toujours avec le sourire, elle est apparue plutôt en forme, Olivier Aymon.
Elle est en pleine forme.
Tout se passe bien, j'ai eu la grande belle surprise de découvrir en fait que j'ai eu aucun des symptômes qu'on craignait ou qui sont souvent les symptômes quand on arrive dans l'espace comme le mal de transport, enfin les nausées, etc. Mais pour moi, dès la première seconde, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, la grande forme.
Et donc on la retrouve comme on l'a laissée le jour de son arrivée, le 14 février, tout sourire, avec toujours ses longs cheveux flottants autour d'elle. Pantalon noir, t-shirt rose siglé ESA, Agence Spatiale Européenne. Elle s'est installée pour cet échange dans le module européen de la station, le module Columbus, au milieu des câbles, des appareils électroniques et des caisses qui donnent parfois l'impression d'un grand capharnaüm.
On a l'impression que c'est un bazar vu de loin où la première fois on se dit « waouh, il y a beaucoup de choses ». Mais en fait, les logisticiens tiennent un système d'inventaire de tout ce qu'il y a et chaque chose à sa place. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et même si ça semble pas forcément en donner, en fait, ça l'est.
Alors depuis 10 jours, avec les 3 autres membres de son équipage, Sophie Adenau a commencé à prendre ses marques à bord, avec des journées forcément bien remplies.
Ce que j'aime faire, c'est me lever très tôt, comme sur Terre finalement, et commencer ma journée par une petite séance de sport. Tous les astronautes à bord ont environ 2 heures de planifier dans le planning pour faire du sport. Mais bon, quand on se lève plus tôt que tout le monde, et ben on a les machines de sport pour soi. Donc moi j'y vais très tôt à 5h30 du matin. Et puis après la journée commence et elle commence en général à 7h30 du matin avec le briefing avec Houston et tous les centres de contrôle. Donc il y a les centres de contrôle de Houston, de Moscou, de Huntsville pour tout ce qui est le cargo opérationnel et sciences, de Munich et de Tsukuba au Japon. Donc dans l'idée, c'est une journée de 7h30 à 19h30 et qui inclut 2 heures de sport par jour.
Ça fait un agenda bien chargé, oui. Qui ne lui a pas laissé le temps de complètement s'installer.
On en est plutôt dans les temps personnels à déballer la valise pour essayer de trouver ses affaires, son shampoing. J'ai mis une semaine à trouver mon shampoing, je l'ai enfin trouvé d'ailleurs, mais c'est juste que je n'avais pas regardé dans la mauvaise valise, donc c'était assez amusant. Mais donc en fait, pour l'instant, on n'en est pas vraiment à s'amuser ou à passer du temps libre, on est plutôt à prendre nos marques.
Il y a de l'eau liquide pour prendre des douches, par exemple. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est peut-être du shampoing sec. Bon, écoutez, on aura l'occasion de crever ça, de creuser ça, Olivier Aymon. Sophie Adenau, qui a quand même pris le temps de regarder la Terre sous ses pieds.
Oui, à travers ce qu'on appelle la cupola, c'est cette baie vitrée arrondie à travers laquelle les astronautes voient défiler les paysages terrestres sous leurs yeux, des moments toujours émouvants.
La cupola donne une vue 180 sur la Terre, c'est vraiment splendide. Pour tout vous avouer, on n'y va pas tous les jours, pas tout le temps, parce qu'on est quand même très occupé ici. Mais toutes les minutes qui sont passées à regarder la Terre sont vraiment précieuses dans le sens où elles nous emplissent de bonheur.
Sophie Adenau, qui doit mener de nombreuses expériences scientifiques là au cours des 9 mois de sa mission.
Oui, elle en a commencé certaines, d'autres sont à venir. Débutera ainsi la semaine prochaine les tests de l'appareil d'échographie assisté par intelligence artificielle qui doit permettre à terme aux astronautes de faire leur propre examen sans l'aide d'un médecin au sol. Et puis ces derniers jours, côté science, eh bien, c'était plutôt rangement et préparation d'un vaisseau cargo qui vient de se détacher de la station pour retourner sur Terre.
La semaine passée, on a été beaucoup occupés à prendre toutes les expériences scientifiques pour les emballer proprement, certains dans des containers frigorifiés, pour les ramener sur Terre. Et donc, ça va des analyses de sang à des démonstrateurs technologiques, etc. Tout ce qui sera analysé plus tard dans les laboratoires sur Terre.
Moment détente également hier soir avec l'anniversaire du russe Andrei Fedyaev, célébré par les 6 autres membres d'équipage. Le 5 juillet prochain, ce sera au tour de Sophie Adenau de franchir une nouvelle année, la tête dans les étoiles.
Sophie Adenau depuis l'ISS avec Olivier Aymon et les questions également de Jules de Kies. France Info, 5h39, on en vient à cette question. D'où provient le drone qui a été détecté hier à proximité du Charles de Gaulle près de la Suède où le navire stationne actuellement? Pour le ministre suédois de la Défense, il est probablement russe. Il évoque la présence d'un navire militaire russe à proximité immédiate au moment des faits. Mais attention, pour le spécialiste en sécurité aérienne Michel Polaco, il ne faut pas s'avancer trop vite.
L'état-major des armées français dit que pour l'instant, on ne sait pas si ce drone était russe, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas si vraiment il se dirigeait vers le Charles de Gaulle, on ne sait pas s'il était malveillant et plus important encore, on pense que c'était un tout petit drone dans la mesure où la bulle de sécurité qui entoure le porte-avions et son groupe aéronaval, même s'il est en train de faire relâche au large de Malmö, c'est-à-dire d'un port suédois très connu, n'a pas détecté de menaces particulières qui auraient évidemment mis en œuvre des moyens importants de la part du groupe aéronaval. Il se trouve que les Suédois, eux, ont détecté la présence de ce drone, qu'ils l'ont brouillé, que le simple brouillage de ce drone a suffi à le faire disparaître, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un drone très sophistiqué.
Mais malgré tout, c'est un incident, Michel Polaco, qui survient dans un contexte de tension croissante autour des drones. C'est déjà la troisième fois en quelques mois qu'on voit un drone très proche comme ça d'un site sensible, un site français sensible, la base militaire de Creil qui avait été survolée fin novembre. Après cela, celle de l'île Longue en Bretagne qui abrite les sous-marins de la dissuasion nucléaire français. Comment peut-on interpréter ce nouveau survol? Est-ce qu'on doit être inquiet?
Écoutez, je ne sais pas si celui-ci doit être classé dans la même catégorie que Mourmelon, l'île Longue, Mulhouse, Creil, et puis en d'autres temps, Orly, Roissy, etc. Ce qu'on sait, c'est que les drones en question dont je viens de parler sont des drones de très petite taille, utilisés par des amateurs qui souhaitent se faire plaisir, déclencher des phénomènes médiatiques, tester, parce que ça les amuse de voir jusqu'où ils peuvent aller, les systèmes de détection, etc. Mais disons qu'il ne s'agit pas d'appareils qui ont pu être classifiés comme étant dangereux. Maintenant, pour ce qui concerne celui qui a pénétré dans la bulle de sécurité du Charles de Gaulle et de son groupe aéronaval, je rappelle que la bulle, elle fait quand même 400 km de diamètre, c'est pas rien. Celui-là, il pouvait pas être très gros, sinon évidemment les systèmes se seraient déclenchés, même si le porte-avions, à partir du moment où il fait relâche, ne peut pas catapulter ses avions, et donc ce sont les Suédois qui auraient utilisé leur armée de l'air et leur Saab Gripen, qui sont les avions de combat dont disposent les Suédois.
Le spécialiste en sécurité aérienne Michel Polaco, au micro France Info de Soisigbourg. Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier soir à Lyon, deux semaines après le passage à tabac mortel du militant identitaire Quentin Derenck, en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Un meeting de soutien à la campagne des municipales de LFI dans la ville. Il était prévu de longue date. Elia Bergel, bonjour.
Bonjour à tous.
Jean-Luc Mélenchon qui s'en est vivement pris aux médias.
Oui, le chef des Insoumis évoque à peine la campagne des municipales. Il installe tout de suite un face-à-face tendu avec les médias.
Je ne vous ai rien demandé, foutez-moi la paix.
Jean-Luc Mélenchon revient sur cette conférence de presse de lundi au siège de LFI, réservée aux médias numériques, interdite aux médias traditionnels.
Vous n'avez pas le pouvoir de nous convoquer, vous n'avez pas le pouvoir de vous inviter de force.
Pendant trois quarts d'heure, l'insoumis en chef invective les médias avec véhémence, dont France Info. Il fait applaudir les titres qu'il apprécie.
L'UMA !
Et huer ce qu'il n'aime pas.
Libération !
Environ 2000 personnes dans la Bourse du Travail de Lyon, selon LFI, hier soir, devant un public à qui Jean-Luc Mélenchon s'en prend au matraquage médiatique qu'il dit subir.
Cette déferlante médiatique, vous savez tous comme moi que c'est un problème. Dans un pays libre, on a le droit, quand on est interrogé, de ne pas être tenaillé et de ne pas subir la question ordinaire et la question extraordinaire comme au Moyen-Âge avec les inquisiteurs.
Sous les applaudissements nourris, Jean-Luc Mélenchon critique aussi, je cite, les croutons et la vieille presse indignée.
Et une grande partie de ce long meeting, Élie, était aussi consacrée à la mort de Quentin Derenck.
Impossible d'éviter la polémique qui enserre LFI depuis deux semaines.
Tout ce que j'ai dit sur l'événement lyonnais, tout était vrai. Et le mouvement insoumis n'est pour rien dans ce qui vient de se produire.
Même si un collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud est mis en examen pour complicité de meurtre dans ce drame, avis partagé par le public du meeting. À la sortie, les militants LFI sont conquis.
C'est quasiment un one-man show, hein, c'est incroyable. Hein.
À l'image de ce Lyonnais d'une quarantaine d'années qui reconnaît quelques maladresses du bout des lèvres.
Une personnalité aussi publique, aussi éminente que Mélenchon, évidemment qu'elle peut dire des choses qui sont pas exactement à la virgule près, exactement conforme à ce qu'il aurait fallu dire.
Avec sa stratégie jusqu'au boutiste, Jean-Luc Mélenchon, presque candidat en 2027, consolide sa base, mais prend le risque de s'isoler et de se couper totalement d'éventuels électeurs plus modérés.
Explication signée Élie Abergel pour France Info.
France Info, 5h-6h.
Et il est 6h moins le quart à suivre le choix de France Info en Corse ce matin pour des cours sur la mafia, cours à partir du collège dans les établissements scolaires. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est avec vous, Sarah Der, c'est à la une, l'affaire Jeffrey Epstein et Hillary Clinton auditionnés.
L'ancienne chef de la diplomatie américaine réclame à Donald Trump de s'expliquer devant la justice. Pour Hillary Clinton, son mari ne savait rien des crimes sexuels du milliardaire américain. L'Iran salue de bons progrès et annonce de nouveaux pourparlers avec les États-Unis dans moins d'une semaine pour éviter une confrontation militaire. Donald Trump menace de recourir à la force. Après la mort du petit Émile, une campagne de prélèvement ADN est en cours au village du Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. Une centaine de personnes concernées. Fin mars 2024, son crâne a été retrouvé par une promeneuse. Des bénéfices importants pour la SNCF, 1,8 milliard d'euros l'année dernière. Ces bons résultats financiers, en grande partie liés au succès des TGV, ne vont pas entraîner de baisse globale du prix des billets.
France Info. Il est bien utile, un groupe WhatsApp intitulé Inondation. Il a été créé il y a 15 jours par les habitants de Bourdelle en Gironde dès le début de la crue de la Garonne. Le village à la limite du Lot-et-Garonne s'est retrouvé littéralement isolé par les eaux. Et c'est la célèbre application de messagerie qui leur a permis de passer leurs commandes de provisions, d'être acheminés par embarcation et surtout de communiquer. Jules Brélas pour le meilleur, mais aussi vous allez l'entendre pour le pire.
Quand le village de Bourdelle était cerné par les flots et accessible uniquement en bateau, sur le groupe WhatsApp qui rassemblait ses habitants naufragés.
On s'était appelé Robinson, on avait changé les prénoms, on s'appelait tous Robinson.
Parmi la cinquantaine de membres du groupe, il y a Sarah, une mère de famille qui n'avait encore jamais connu de crue.
Alors ça a beaucoup rendu service parce que du coup on se sentait beaucoup moins isolé. On envoyait les listes de courses, les besoins pour les navettes, voilà, les urgences.
Le maire de Bourdelle, Jean-Michel Mascotto, lit les messages du groupe.
Patrick doit faire une traversée pour ramener du foin pour les moutons de Mathilde. Il y a des achats, croquettes, chats, allumettes, compotes, biscuits pour le petit. Bon, ça a l'air banal, mais c'est la vie de tous les jours et ça continue.
Sébastien est l'employé communal qui conduisait la navette bateau et tracteur.
Pour les courses, tout le monde met des messages, mais vous savez que le soir, il y en a qui discutent de choses qui sont inutiles. Quoi. Ben, y a des gens qui racontent leur vie, alors que si le chat va bien, des trucs comme ça.
Ah, monsieur le maire. Oui, on essayait de rigoler un peu parce qu'avec sans humour, c'est compliqué.
On n'avait plus d'internet à la mairie. Notre solution de repli sur les communes voisines quand on est inondé, c'était Mongosy qui n'avait plus d'électricité. Alors comment on fait dans ces cas-là? Des signaux fumés, c'est pas possible, c'était bien humide.
Le maire de Bourdelle réussit finalement à faire résonner la sirène d'alerte aux populations en passant par des amis du Lot-et-Garonne voisin, mais restait encore un problème.
Mais il n'a pas de retour le système d'alerte. Il ne fait que prévenir dans un sens les habitants, mais nous on voulait quand même savoir précisément qui était là et qui était parti, et leurs besoins.
Tous les habitants qui sont restés dans le bourg étaient dans ce groupe pour communiquer entre eux.
Et comme dans un groupe WhatsApp famille, les enfants qui ne répondent pas se font taper sur les doigts par leurs parents.
C'est stressant pour nous, responsables, de ne pas avoir de nouvelles. Est-ce qu'ils ont des problèmes, des soucis? Nous, ça nous stressait plus qu'autre chose. On leur a remontré les bretelles un petit peu. Dites-nous quelque chose, même s'il n'y a pas besoin, dites-le.
Alain, le mari de Nanou, lui, n'avait besoin de rien, ou presque.
Alain, il a eu besoin juste du pack d'eau pour le Ricard, c'est tout. Pour les bateaux, pour les copains qui s'arrêtait.
Si l'eau de la Garonne est retournée dans son lit, le groupe WhatsApp Inondation Bourdelle, lui, n'est pas refermé. Il reste actif à la demande générale des habitants.
Un reportage ici, Gironde, de Jules Brélas pour France Info. 5h48 et c'est l'heure du choix de France Info. Un choix qui nous emmène en Corse ce matin avec la lutte anti-mafia. Les autorités veulent s'adresser aux jeunes qui ont parfois une image un peu idéalisée des criminels. Le rectorat de Corse a donc lancé cette année les premiers cours anti-mafia dans les lycées et les collèges. À partir de la quatrième, on en est aux expérimentations. L'idée, c'est qu'à terme, les élèves aient au moins 5 heures de sensibilisation par an. Bonjour Noémie Bonin.
Bonjour.
Et il y a du travail, on commence avec vous par rentrer dans la classe.
On n'est pas en histoire ici, on est vraiment dans une actualité qui est brûlante, qui est immédiate.
Nous sommes au lycée Fesch d'Ajaccio, c'est le premier cours anti-mafia de cette classe de seconde.
Est-ce que vous avez repéré dans le texte des éléments qui permettent de souligner la violence qui traverse la société corse ? Oui.
Le nombre qui augmente d'année en année.
Effectivement, rapporté au nombre d'habitants, nous sommes la région qui a le triste privilège d'avoir le plus grand nombre d'assassinats en Europe. C'est chez nous qu'on tue le plus.
Sébastien Ottavi est professeur d'histoire-géographie. Il s'appuie sur des articles de presse pour lancer la discussion avec ses élèves sur la réalité de la mafia et la représentation qu'ils en ont.
C'est sûr que c'est pas bien en soi, mais quand cette personne est proche de nous, qu'elle peut nous aider à trouver du travail, imaginons demain je me dispute ou... En fait, la personne nous apporte du bien, elle nous apporte du mal aussi. Il faut juste peser le pour et le contre.
Les élèves ont grandi dans cette actualité violente, constate l'enseignant.
C'est difficile d'ignorer, y compris dans notre lycée de centre-ville, et notamment du fait de l'actualité de ces dernières années et du lieu où un certain nombre d'assassinats se sont déroulés, à quelques centaines de mètres de notre établissement. C'est difficile de se dire que non, les élèves sont sur leur TikTok et pensent à autre chose. Peut-être que 99% du temps, ils sont sur TikTok et pensent à autre chose, mais ils vivent quand même ici. On ne peut pas ignorer ce qui se passe ici.
Des ados confrontés de près ou de loin au phénomène mafieux, mais avec parfois des visions biaisées de la réalité, que j'ai aussi constaté auprès de ces jeunes attablés à la terrasse d'un fast-food.
Les réseaux mafieux, ça a du négatif, mais aussi ils revendiquent leur identité ici, hein, pour pas que ça finisse comme c'est en train de faire sur le continent.
C'est-à-dire ?
Bah, sur le continent, maintenant, la sécurité, on en trouve un peu nulle part. Et ici, c'est le contraire. Ouais, c'est sûr que ça met un peu d'ordre. S'il serait pas là, je pense qu'à l'heure actuelle, la Corse, ce serait comme la France, niveau sécurité. Et c'est quand même mieux pour la population corse qui souhaite rester tranquille ici.
Et c'est justement, Noémie, pour déconstruire ces images idéalisées du voyou que le rectorat de Corse a souhaité mettre en place ses cours.
Oui, et il répond ainsi à la demande de longue date des collectifs anti-mafia de Lille.
En communication, oui, porte ouverte.
Je vous fais monter.
Ah, et voilà.
Une très belle vue sur la mer de votre balcon.
Ah oui, là, alors on a à 180 degrés, disons. Et les îles surtout. Donc là, vous voyez l'île d'Elbe.
Josette Dallava Santucci fait partie de l'organisation Mafiano Vitae. Mafia non, la vie oui. Elle explique pourquoi le sujet est si difficile à aborder dans les classes.
On sait que c'est une société de proximité.
Donc ça veut dire que des victimes et des enfants de.
Ben, voilà, les victimes mafieux,
on va dire,
voilà,
criminels.
Vont se trouver ensemble. Il faut faire très attention, être complètement neutre et laisser les enfants parler.
Si cette médecin de 83 ans s'investit toujours autant contre la mafia, c'est pour que les jeunes générations puissent grandir dans une société corse apaisée.
C'est l'avenir de mes petits-enfants et de tous les petits-enfants de la Corse. S'ils peuvent vivre ici, tant mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne leur dirai pas de rentrer. De rentrer en Corse après leurs études. Parce que la situation est encore trop difficile. Mais je module, hein, je pense que l'attachement à la terre, c'est très important. S'ils peuvent travailler sur la terre de nos ancêtres. Moi, c'est mon rêve aussi. Hein. Mais les meilleurs risquent de partir, même s'ils ne trouvent pas le socle de société qu'ils méritent.
Ces cours, inspirés de ce qui se fait en Italie depuis des années, doivent à terme concerner 16 000 élèves corses de la 4e à la terminale.
Le choix de France Info, consacré ce matin à ces cours anti-mafia à l'école, signé Noémie Bonin, choix qui est à retrouver sur franceinfo.fr ainsi que sur l'application Radio France.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Et bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho, c'est avec vous ce matin. Toute l'actualité économique en trois titres. Et l'énergéticien, je vais y arriver, français, Engie, investit massivement au Royaume-Uni.
Oui, le groupe dirigé par Catherine McGregor, une des rares femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40 à la Bourse de Paris. Engie donc met sur la table 12 milliards d'euros pour acheter UK Power Networks, distributeur d'électricité de référence outre-Manche. C'est une étape majeure pour les orientations stratégiques d'Engie. UK Power Networks emploie 6500 personnes et distribue un volume de 71 TWh d'électricité auprès de 8,5 millions de clients. Cette société britannique, rachetée par le français, exploite par ailleurs 3 licences de distribution couvrant Londres, le sud-est et l'est de l'Angleterre.
Le marché de l'immobilier ancien s'est repris l'année dernière en France.
Oui, vente repartie à la hausse, mais les prix aussi. Les prix des logements anciens parisiens ont en effet augmenté d'1,1% et le nombre de ventes, lui, est remonté à 951 000 selon l'indice notaire INSEE. Selon les auteurs de l'enquête, ces deux paramètres, tarifs et volume de transactions, sont des signes clairs de reprise du marché immobilier après deux années de crise. Concrètement, avec 951 000 ventes au cours de l'année dernière, l'activité immobilière est en hausse de plus de 12% en France par rapport à 2024.
On traverse l'Atlantique à présent, direction les États-Unis avec Netflix qui renonce à racheter le groupe de cinéma et de télévision Warner Bros.
Oui, la plateforme américaine de diffusion de films en flux sur Internet jette l'éponge face à l'offre présentée par son concurrent, la Paramount Skydance, à 110 milliards de dollars, l'équivalent de 93 milliards d'euros. Alors c'est un coup de théâtre vraiment majeur dans ce dossier à rebondissement qui dure depuis plus de 5 mois. Paramount Skydance, premier à avoir soumis une proposition de reprise dès septembre, n'avait jamais été en fait considéré comme favori jusqu'à présent.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Le plus dur reste à venir dans la réduction du déficit public. C'est ce que prédit l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'OFCE publie son analyse du budget 2026, adoptée il y a quelques semaines par le gouvernement. Selon ce laboratoire de recherche de Sciences Po, si la France veut tenir ses objectifs, il va lui falloir trouver 40 milliards d'euros dans le budget 2027, année de l'élection présidentielle.
À tout à l'heure, Emmanuel Cuny. Et voici l'heure de la playlist de France Info à 5h55. C'est avec vous, Sarah Ders. Et vous nous parlez aujourd'hui, Sarah, de la sortie du nouveau single d'Angèle et Justice, sorti aujourd'hui.
Très, très attendu hein, par les fans de la chanteuse belge. Le titre s'appelle « What You Want ». Électro sombre et sensuel, titre déjà addictif. Le morceau évoque désir et amour avec des nappes de synthé en transe du duo de la French Touch. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs indices de leur rapprochement semés sur les réseaux sociaux. Angèle publiait sur Instagram une reprise de Never Ender de Justice et Tame Impala. Collaboration avec Justice s'est faite après la cérémonie de clôture des Jeux de Paris en 2024, cérémonie 100% French Touch. Ce jour-là, Angèle interprète Night Call aux côtés de Kavinsky et du groupe Phoenix. Alors un nouveau single et peut-être un nouvel album, 5 ans après 95, un nouveau projet mais pas avant la rentrée 2026. La nuit dernière, Angèle dansait au Rex Club, soirée spéciale pour la sortie du nouveau morceau. Le clip de What You Want sera dévoilé à 11h, d'autres surprises vous attendent.
Vous avez dit tout à l'heure un titre sombre.
Sombre et sensuel.
Sombre et sensuel. On va voir si ça correspond également à la météo de ce jour. Je ne suis pas sûre. On va voir ça avec Christine Peña. Et Christine.
Ah, j'ai plein de ressources. Hein. Faites très très attention.
Bon, sombre, je ne sais pas. Sensuel, je ne sais pas non plus. Mais voilà, en tout cas, ce que je sais, c'est que ça se dégrade par la Bretagne à nouveau.
Eh bien oui, la masse d'air bascule de nouveau. Un flux océanique se met en place. Plus humide, plus nuageux avec ces nuages. Et ces pluies qui resteront faibles sur un bon quart nord-ouest du pays pour aujourd'hui. Sur Paris, la pluie devrait arriver, mais dans l'après-midi. Et nous concerner surtout en début début de soirée d'ailleurs. Le sud-ouest jusqu'au nord-est, en passant par le massif central sur les Alpes également. Le soleil résiste, mais alors vraiment bien. Vous avez un ciel dégagé toute la journée qui se maintient. On trouve toujours des nuages autour de la Méditerranée qui remontent la vallée du Rhône. D'ailleurs, ça bourgeonne et ça bourgeonnera surtout cet après-midi sur les Pyrénées. Quelques ondées sont possibles du côté du Roussillon, localement sur le relief des Pyrénées. Une petite averse aussi, puis un peu de bruine n'est pas exclu vers le delta du Rhône ce matin. Voilà, les températures. Alors là, on en parle. Hein. Elles vont baisser un petit peu sous la pluie, c'est vrai, sur le nord-est, le nord-ouest. Bretagne, on va dire, jusqu'au nord. Paris également, de 13 à 16 degrés. 16 pour Paris cet après-midi. Un petit 12 pour Rouen. Vous voyez que ça baisse, mais on reste légèrement au-dessus des valeurs de saison quand même. Alors que dans le nord-est, entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, il fera encore exceptionnellement doux. En Auvergne également, 23 degrés encore à l'ombre. À Clermont-Ferrand, 21 à Strasbourg, comme à Mulhouse et Besançon. Et puis clairement, le printemps est décidé de s'installer de façon précoce. Cette année, c'est clairement dans la logique du réchauffement climatique.
Eh oui, Christine Peña, merci pour cette météo. Il est 5h59 sur France Info. L'heure de retrouver William Guécosta. Bonjour William.
Bonjour ma chère Diane Ferchit. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 7h sur France Info. Et bonjour à tous autour de cette table, toute l'équipe de l'Info du Matin. Sarah Ders, Laura Dulieu pour le journal qui arrive. Christine Peña pour votre météo. Tiens, il en sera question d'ailleurs de météo dans cette matinale. Reportage dans 10 minutes sur la façade atlantique où les tempêtes ont érodé encore un peu plus le littoral. Et puis de bons conseils pour les sinistrés des crues face aux assurances dans une demi-heure. On verra aussi si ces événements climatiques à répétition risquent de faire gonfler la facture pour tout le monde. Voilà une partie du programme. Merci d'être avec nous sur France Info de si bonne heure. Il est 6h.